Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les rapports encourageants remis par Amnesty International ne sont pas si courants pour ne pas les signaler. Celui publié ce mardi en fait partie. Il est consacré à l'application de la peine de mort dans le monde et témoigne d'une nette tendance à la baisse en 2016 par rapport à l'année précédente. 37% d'exécutions capitales en moins, sachant que faute de statistiques officielles, la Chine n'est pas prise en compte. Alors à qui attribuer le mérite de ce recul important de la peine de mort ? Aux ONG, aux pressions diplomatiques, aux sociétés des pays concernés, peut-être à la conjonction de l'ensemble de ces forces unies vers un même objectif. Il faut savoir par exemple que l'abolition de la peine capitale dans le monde figure parmi les priorités de la politique étrangère française. Alors pour autant, la convocation des droits de l'homme dans les relations internationales semble moins opérante aujourd'hui qu'hier. Avec la menace terroriste, ce qui pour certains relève avant tout des bons sentiments, a laissé la place à une approche plus pragmatique. La sécurité d'abord, l'humanitaire ensuite. Il suffit d'écouter les candidats à la présidentielle pour s'en convaincre. Y a-t-il encore une diplomatie des droits de l'homme ? Nous en discutons ce soir avec trois invités. Caroline Galactéros, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, colonel de réserve. Vous dirigez le cabinet d'analyse stratégique Planeting et vous tenez un blog « Bouger les lignes ». Pour discuter avec vous, Bertrand Badie, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de relations internationales à Sciences Po Paris. On vous doit, c'était en 2002, mais ça a directement trait à notre sujet de ce soir, « Droits de l'homme et diplomatie entre éthique et volonté de puissance », ouvrage que vous aviez publié chez Fayard. Je vais peut-être citer celui qui est à paraître, qui va être bientôt publié dans quelques jours aux éditions du CNRS, « L'État importé, l'occidentalisation de l'ordre politique ».
Celui-là, il est déjà paru il y a 25 ans, c'est une édition de poche qui
va sortir. Ah, c'est une édition de poche, d'accord.
Voilà.
Ah bah alors d'accord, bah, il va falloir que je remette mes fiches à jour. Bah, ce serait quoi alors le dernier qu'on peut citer ?
Alors le dernier, c'est avec Michel Fouché, au CNRS édition, il s'appelle « Vers un monde néo-national, point d'interrogation ». Un point d'interrogation plein de frayeurs.
J'avais le bon éditeur.
Absolument.
C'est déjà pas si mal.
Et moi, le bon côte.
Ronny Broman est notre troisième invité. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur d'études à la Fondation Médecins Sans Frontières, MSF, que vous avez contribué à fonder il y a quelques années de cela. Alors, je vais citer votre dernier ouvrage. Là, j'espère que je serai correct. Chez Elitis, l'an dernier, Diplomatie de l'ingérence.
Oui, c'est ça.
Alors avec vous trois, je voudrais qu'on commence, même si ce n'est pas le sujet que j'ai évoqué en introduction à cette émission, avec le bombardement d'un village syrien à l'arme chimique, c'était le 4 avril dernier, des réactions qui ont été nombreuses, réactions internationales d'ordre différent. Et première question qui n'est peut-être pas la plus simple de la soirée d'ailleurs, mais je vous la pose quand même. Quelle a été selon vous, quelle aurait dû être selon vous la réponse la plus appropriée à ce qui est un crime de guerre, Bertrand Badie?
Si on parle au conditionnel et que l'on évoque le monde idéal, ça aurait été une réaction de ce qui aurait dû être la communauté internationale et qui se serait manifestée à travers un multilatéralisme qui aurait été appelé à faire son travail. C'est-à-dire, il y a là une violation extrêmement grave des droits élémentaires, du droit de la guerre, si tant est d'ailleurs qu'il s'agisse d'une guerre, et c'était à la communauté internationale tout entière de réagir, c'était au multilatéralisme de se dresser, et si nous étions dans ce monde qui nous avait été promis après 1945, c'est-à-dire dans lequel, à travers les Nations Unies, la communauté internationale pouvait agir, c'est ainsi qu'il aurait fallu faire, dans un premier temps et dans un deuxième temps, évidemment, traduire les responsables devant la Cour pénale internationale, tout en diligentant, bien entendu, cette enquête dont tout le monde parle et dont on sait très bien qu'elle n'aura jamais lieu. Donc c'est là, je crois, le triptyque, mais je m'empresse de dire que ça, c'est le monde idéal. Ce monde n'existe pas. Ce monde n'existe pas, non pas par la faute des Nations Unies, parce que c'est trop facile de se défausser sur les Nations Unies, du fait des politiques de puissance. Et effectivement, nous entrons dans un monde dangereux dans lequel le langage de la puissance qui est inadapté aux questions du monde vient de plus en plus se substituer au langage du droit. Le passage d'Obama à Trump a été terrible. La longue histoire de M. Poutine en est la parfaite symétrie.
C'était bien en tout cas le sens de la double formulation de ma question. Quelle aurait été ou quelle a été la réponse à approprier? Donc vous êtes plutôt sur quelle aurait été. Est-ce que vous, dans ce qui, dans les différentes réponses qui ont pu être apportées, Caroline Galacteros, il y en a une qui vous semble être la bonne réponse suite à cette attaque chimique?
Moi, j'ai peur qu'on aille trop vite en besogne. Malheureusement, on est allé beaucoup trop vite en besogne. Nous ne savons pas ce qui s'est passé et tout a été fait pour qu'on ne le sache pas. L'enquête n'a pas eu lieu. Aura-t-elle lieu un jour? De toute façon, ça va devenir de plus en plus tard. Il y avait une frappe qui était dans les cartons, qui était une réaction de la puissance américaine, mais pas du tout pour répondre à un incident ou à des images atroces d'enfants gazés. Il y a quand même eu plus de 300 000 morts en Syrie depuis 6 ans, donc je veux bien que là, subitement, quelques photos soient insoutenables et conduisent à la réaction. Non, mais bien sûr qu'elles le sont, mais comme des milliers et des milliers d'autres sur lesquels personne ne réagit jamais, et surtout pas les États-Unis. Donc, je pense simplement que l'on aurait dû faire tout à fait différemment. On est en train, comme vous le dites, d'avoir un retour de la puissance. Mais est-ce que, pour moi, la question, c'est celle de la morale versus le pragmatisme? Est-ce que le pragmatisme n'est pas finalement infiniment, non pas plus moral, mais plus éthique que le dogmatisme moralisateur dont on a fait tout un système depuis maintenant 25 ans avec des résultats absolument catastrophiques au plan humain? Des États déstabilisés, des États détruits, des populations civiles. Prétendument nos objectifs, il faut les protéger, mais enfin le résultat est là quand même. Tout de même, on a un démenti terrifiant sur lequel il faut réfléchir.
René Grobman.
Je voudrais tout de même commencer par rappeler que nous avons quelques faits solides en main, oui. Malgré tout. L'existence de personnes qui ont été gazées par des produits neurotoxiques, des organophosphorés, dont la manifestation clinique est sans aucune ambiguïté. Des équipes de Médecins sans frontières ont reçu un certain nombre de ces blessés et elles attestent la réalité de ce bombardement. Ce sont bien des avions syriens qui ont entraîné le dégagement de ces gaz. Donc la question est de savoir s'ils ont jeté des obus chargés de produits chargés d'armes chimiques ou s'ils ont fait exploser un dépôt d'armes chimiques. Sur ce plan-là, on n'est pas tout à fait sûr. Oui. Mais même dans ce cas-là, la présence d'un dépôt d'armes chimiques ne pouvait pas être ignorée des forces syriennes, si bien que même un bombardement qui aurait frappé ce dépôt pourrait être tout de même imputé autant à l'armée syrienne que à ceux qui détenaient ces armes. Donc moi, il me semble que la réalité du crime est au-delà de toute question. Quant à la réaction, je rejoins ce que disait Bertrand Badi à l'instant, nous ne sommes pas dans un monde idéal, donc ceux qui avaient la capacité de frapper l'ont fait. Ils l'ont fait avec des précautions qui les prémunissaient contre une possible escalade, en prévenant les Russes, qui eux-mêmes ont prévenu les Syriens, si bien que cela explique qu'une soixantaine de missiles provoquent à peu près aucun dégât. Dans ce conflit qui en a fait beaucoup. Donc il s'agit essentiellement d'un coup politique, d'une manifestation purement symbolique. Alors les symboles en politique ont leur valeur, et je ne veux pas les diminuer, mais enfin ils ont une valeur fixe. Il ne faut pas en faire plus que ce qu'ils manifestent. Donc c'est un bon coup politique, je crois, pour Trump.
Est-ce que vous y voyez, René Grobman, un coup politique dicté par des questions de morale?
Ah non, certainement pas. Non. Non, si les États-Unis étaient guidés par la morale, ça serait quand même la première puissance du monde. Non, et d'ailleurs, je ne leur en veux pas. Je ne crois pas que ce soit leur rôle. Je n'attends pas d'eux qu'ils soient, le curé de la paroisse mondiale ou quelque chose comme ça. Certainement pas. Non, c'est un coup politique. La question est de savoir s'il aura des répercussions positives ou non. C'est pour moi la seule question qui se pose.
Oui, alors précisément, c'est la vraie bonne question. À quoi a servi cette frappe? Elle a servi politiquement au plan intérieur à un président Trump qui est au bord quasiment de l'impeachment. Ça commence à monter quand même très sérieusement depuis 3 mois à ses dépens et donc il a donné des gages. La question c'est quel niveau de maîtrise il a maintenant sur son appareil militaire, sur son appareil de renseignement? Quelle est sa marge de manœuvre pour pouvoir mettre en œuvre la politique qui était la sienne avant son investiture et qui s'est qui a disparu, corps et bien pour l'instant. Et deuxièmement, malheureusement, cette frappe a un impact direct. C'est un encouragement absolument terrifiant et absolument ahurissant aux groupes armés djihadistes sur le terrain syrien. Donc on est en train de redonner une bouffée d'oxygène terrible au véritable malheur, et là, moralement, très très grave, du peuple syrien.
Bertrand Badie, est-ce que vous partagez cette analyse d'une dimension qui n'a rien à voir avec la morale dans la réaction des États-Unis? L'utilisation d'armes chimiques, ce sont des armes qui ont un statut particulier.
Ce sont des armes
de destruction massive.
Elles sont cataloguées comme ça.
Voilà, qui ne sont pas interdites formellement, mais il y a une convention qui est censée quand même,
les organophosphorés sont interdits. Les Syriens utilisent le chlore de façon répétitive et le chlore, lui, n'est pas interdit. On ne sait pas très bien.
En tout cas, la convention n'est pas suffisamment signée par suffisamment de pays pour que cette interdiction soit comme par exemple d'autres armes, comme par exemple les armes nucléaires. Mais Bertrand Badie, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit?
Oui, je crois qu'on est d'accord autour de cette table sur le fait que la base de cette action n'est pas de type éthique ni morale. J'irai peut-être un petit peu plus loin dans l'interprétation du geste qui mérite d'être analysé, parce qu'après tout, c'est le premier geste majeur du nouveau président des États-Unis. Et je dirais peut-être trois choses. La première, c'est que contrairement aux commentaires dominants, il n'y a pas eu de renversement, de retournement. D'un certain point de vue, Trump a fait ce qu'il annonçait pendant toute sa campagne électorale, « Make America Stronger ». Il fallait qu'il ait une occasion de montrer que la ligne maintenant de la politique étrangère américaine, c'est de montrer sa force, c'est de montrer ses muscles et de réhabiliter la fameuse power politics, la politique de puissance. Donc il y a là un message qui est tout à fait cohérent avec ce que ce monsieur a dit pendant sa campagne électorale, alors qu'il y a eu un tapage médiatique pour dire retournement spectaculaire. Non, il n'y a pas de retournement. Deuxième élément...
Ses alliés, un certain nombre de ses soutiens, le critiquent vertement pour ça. Donc il y a tout de même une certaine oscillation.
Je ne suis pas sûr que ses alliés, au moment de la campagne électorale, aient véritablement saisi ce qu'était sa ligne. Justement, le deuxième élément que je voudrais ajouter, qui là est vraiment très important, c'est que face à ce qu'est devenu le monde, le système international, aujourd'hui, quelle est la bonne méthode? Et on voit bien qu'il y a une triangulation entre les trois derniers présidents des États-Unis. George W. Bush, le néoconservatisme, il faut universaliser les valeurs américaines, le modèle américain, et par tous les moyens, de gré ou de force. Obama, la mondialisation telle qu'elle se fait aujourd'hui, rend caduque l'usage du hard power. Il faut s'imposer par le soft power, par l'économie, le libre-échangisme et une diplomatie d'influence. Et là, c'est une troisième réponse, qui est une réponse de type nationaliste. C'est-à-dire, le problème de Trump, c'est pas d'universaliser le modèle américain comme Bush. Le problème de Trump, c'est d'agir face à tous les événements internationaux conformément aux intérêts nationaux américains. Là, l'intérêt national américain tel que perçu par Trump, parce que ça n'existe pas l'intérêt national en général, c'était effectivement rentrer dans le jeu moyen-oriental dont les États-Unis étaient largement sortis, équilibrer la puissance russe et montrer à la puissance russe qu'elle n'était pas ce seul maître qu'elle paraissait être, notamment depuis la trop fameuse bataille d'Alep. Ça, c'est quelque chose de très très important, parce que la seule vraie question qui compte, c'est est-ce que ceci est la bonne entrée. Ça m'amène à ma troisième remarque, et je crois qu'il rejoint ce qui a été dit jusqu'à présent, à savoir que est-ce efficace? La réponse est évidemment non, parce que ce type de conflit, plus nous le mondialisons, plus il se trouve mondialisé, plus il se trouve complexifié, et plus surtout, il va conduire à un jeu de réaction. Poutine, dans la manière dont il est engagé dans le champ moyen-oriental, ne peut pas se permettre de laisser Monsieur Trump envoyer ses missiles et d'accepter et tirer un coup de chapeau. Donc effectivement, nous entrons dans un jeu d'escalade, ça rappelle le bon vieux temps, sauf que ce temps n'existe plus.
Alors puisque notre question ce soir a trait aux droits de l'homme, même si évidemment, on voit bien petit à petit qu'on se dirige aussi vers cette question, Il faut quand même dire que suite à cette attaque à l'arme chimique, c'est aussi tout le vocabulaire lié à la défense des droits de l'homme qui a été utilisé. De la même manière d'ailleurs qu'au moment du siège d'Alep, ce sont les mêmes ressorts qui ont été convoqués. Sur cette question des droits de l'homme, est-ce que vous considérez les uns et les autres qu'aujourd'hui, c'est avant tout, mais peut-être que ça a toujours été le cas d'ailleurs, un élément de discours qui est systématiquement instrumentalisé pour couvrir d'autres objectifs, ou bien est-ce qu'il peut quand même y avoir une utilité des droits de l'homme aujourd'hui, de la question des droits de l'homme dans le conflit syrien, Ronnie Broman?
Mais d'abord, je n'opposerai pas nécessairement les deux. Je pense que les droits de l'homme dans la bouche de ceux qui détiennent le pouvoir sont d'abord une rhétorique de puissance. Historiquement, ça a été le cas à l'époque coloniale, à l'époque impériale, à l'époque de la guerre froide. Si on marque les différents moments de l'évolution, disons au cours des deux, trois derniers siècles, on ne peut pas manquer de relever que les droits de l'homme sont toujours un discours de pouvoir. Le pouvoir a ceci, enfin les hommes ont ceci de particulier qu'ils ont besoin de trouver une justification morale à leur action, et ce besoin est profondément, enfin il est sincèrement éprouvé. Ça ne veut pas dire que ce qui est dit est la réalité et que l'on sait que c'est la vérité, mais ce besoin-là, il est profond. Donc justifier les entreprises de conquête, de domination par les droits de l'homme. Après tout, quand on est allé conquérir les peuplades lointaines, les terres lointaines en Afrique et en Asie, c'était pour mettre ici fin à la traite des hommes, au cannibalisme, à l'esclavage, etc. Enfin, ça avait toujours en poursuivant de très nobles desseins. Au moment de la guerre froide, pour revenir à des périodes plus récentes, les droits de l'homme, notamment par exemple pendant les accords, les fameux accords d'Helsinki la fameuse troisième corbeille des droits de l'homme était bien un coup formidable des puissances occidentales qui affaiblissaient le camp communiste, et ainsi de suite.
Sauf que la corbeille aujourd'hui, elle a l'air particulièrement vide dans ce domaine. En tout cas, on a l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup moins opérant désormais.
Mais je ne crois pas qu'elle était mieux remplie à l'époque. Lorsque des gens qui défendaient les droits de l'homme à l'Est, par ailleurs, justifiaient d'immenses massacres en Indonésie, au Chili, au Vietnam, et ainsi de suite, leur corbeille de droits de l'homme était aussi sanglante qu'elle l'est aujourd'hui. Donc je ne crois pas que de ce point de vue-là, les choses aient réellement changé. Disons que le monde semblait plus simple du fait d'une opposition entre des démocraties qui, tout de même, dans leur territoire propre, appliquaient les droits de l'homme, et des puissances, des pouvoirs totalitaires, les pouvoirs communistes, qui, eux, ne les appliquaient pas, et même les contestaient, enfin, en tout cas, contestaient notre version des droits de l'homme. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire, qu'on puisse s'interroger sur l'existence maintenue d'une diplomatie des droits de l'homme. Y a-t-il encore une diplomatie des droits de l'homme? Il n'y en a jamais eu, il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'il n'y en a avant. En revanche, je crois que la thématique des droits de l'homme portée par des sociétés et des organisations qui sont l'émanation, enfin en tout cas qui sont inscrites dans ces sociétés, cette thématique-là a pris beaucoup d'ampleur, d'ailleurs parfois une ampleur tout à fait démesurée par rapport à ce que les droits de l'homme peuvent accomplir, car les révoltes qu'on a constatées, par exemple le printemps arabe, c'est plus un soulèvement contre des dictatures.
Et d'ailleurs la crise syrienne au départ s'inscrivait dans ce printemps
absolument
arabe.
Absolument, c'est un soulèvement démocratique qui rejette des formes de dictature, qui réclame pour elle, les insurgés, les manifestants réclamaient pour eux un minimum de dignité, le droit de pouvoir manifester, de pouvoir exercer son culte, de pouvoir vivre décemment sans la présence d'une police politique qui les surveille à tout coin de rue. Manifestation auxquelles le pouvoir a répondu par une répression absolument féroce. Mais rien ne dit que le pouvoir avait été, disons, neutralisé, si les manifestants avaient eu gain de cause, quelle était la forme politique qu'ils auraient adoptée. Ça, on n'en sait rien. Donc on se regroupe facilement contre des dictatures, mais on ne sait pas très bien en faveur de quoi, pour quel projet politique, quelle coexistence avec les voisins, quel statut dans les relations hommes-femmes, dans les relations entre générations, entre différentes obédiences politiques ou religieuses, etc. Tout cela n'est pas inscrit dans un soulèvement contre la dictature.
Caroline Galacteros.
Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais je pense que c'est surtout qu'il y a des incohérences énormes. C'est-à-dire que nous, parlons dans nos États de laïcité, de droits de la personne, sans arrêt, nous les invoquons, de multiculturalisme. Et que fait-on au Moyen-Orient ? On détruit méthodiquement et on déstabilise méthodiquement et très intentionnellement tous les derniers remparts multiconfessionnels, laïcs, certes sous des régimes autoritaires, mais enfin où il y a une coexistence confessionnelle, culturelle, religieuse, enfin tout. Voilà, on détruit tout ça, et puis après on vient de dire, ah ben alors vraiment, alors on ne comprend pas.
Alors ça veut dire quoi pour vous, au nom des droits de l'homme, on détruit les droits de l'homme ailleurs?
Bien sûr qu'il y avait des revendications, elles ont été très très vite instrumentalisées, reprises, récupérées, et ça n'a plus rien à voir, c'est tout. Donc que veut-on aujourd'hui dans cette partie du monde? Est-ce qu'on veut continuer à faire semblant? On va faire advenir une forme de démocratie. Ça ne veut rien dire dans des États où il y a des mosaïques confessionnelles. C'est un peu, ça me rappelle, moi, beaucoup les Balkans. C'est-à-dire que finalement, vous avez des dominations communautaires et qu'à la fin, si vous appliquez des canons démocratiques là-dessus, eh bien, vous avez des référendums et finalement, les plus nombreux prennent le pouvoir sur les autres.
Mais avez-vous vraiment l'impression que c'est encore l'objectif qui est affiché aujourd'hui par les puissances, appelons-les les puissances occidentales et notamment la France?
Mais ce sont des oripeaux moralisateurs. Nous avons une politique d'un cynisme absolument terrifiant dans les faits. Si il faut savoir ce que l'on souhaite, il faut déjà définir quel est l'ennemi, il faut être ensemble pour le combattre, il faut accepter d'entrer dans une coalition. On voit bien que ce qui est en train de se passer, malheureusement pour l'instant, en tout cas au stade actuel, condamne la lueur d'espoir qui avait pu jaillir au moment où Donald Trump est arrivé, où on s'est dit enfin il va y avoir une convergence d'intérêts russo-américaine sur le thème aussi. sur le thème on arrête de fiouler l'islamisme radical. Voilà, c'est tout, on arrête. On restabilise l'État syrien, vite. Avec ou sans le pouvoir actuel, c'est encore un autre sujet.
J'avais plutôt l'impression, en préparant cette émission, que cette thématique des droits de l'homme et sa convocation dans les relations internationales était de moins en moins visible aujourd'hui. Alors certes, j'ai bien compris que la diplomatie des droits de l'homme n'a jamais vraiment existé, donc il ne s'agit pas de se demander si elle existe encore, mais qu'en tout cas, sa visibilité, la visibilité de la thématique droits de l'homme était quand même encore importante ces dernières années, et qu'aujourd'hui, notamment du fait de la lutte contre le terrorisme islamiste, c'est quelque chose qui semble être vraiment mis de côté.
Attention à ces catégories génériques, parce qu'elles vont aussi contre.
Terrorisme islamiste ou c'est démocratie?
Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'abord, il faut bien distinguer les plans. Vous nous interrogez sur la diplomatie des droits de l'homme, sur le lien qu'il peut y avoir entre diplomatie politique internationale et droits de l'homme, c'est une chose. Le printemps arabe, c'est une autre chose. Si on télescope les deux, on ne sait plus bien où on va, c'est-à-dire on mêle les analyses. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Ronnie Broman tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une incompatibilité entre la notion de diplomatie telle que nous l'avons forgée dans notre histoire westphalienne, dans notre histoire européenne, et l'idée de droits de l'homme. Il ne faut pas oublier qu'au centre de la politique internationale, telle qu'elle a été inventée par les États lorsqu'ils se sont constitués, 17e, 18e siècle, il n'était question que de compétition de puissance. Rappelez-vous la fameuse phrase de Maître Hobbes, l'auteur du Léviathan, qui disait « Les États ont entre eux une relation de gladiateurs. Des gladiateurs ne pensent pas aux droits de l'homme lorsqu'ils se livrent à leur jeu. » Il ne faut pas oublier aussi que ce système international que nous avons inventé est un système international mécaniquement belligène, dans la mesure où il conduit à une compétition, à ce que Raymond Aron appelait cette rivalité millénaire entre États. Et quand les droits de l'homme arrangent, servent, on les utilise comme emblème. Quand ils gênent, on les met sous la table. Et ça a été ainsi, invariablement. Alors, il y a eu des moments, quand même, où cette idée était un tantinet bousculé. C'est à chaque fois, et je rejoins aussi ce que disait Ronnie tout à l'heure, que les sociétés sont entrées dans le jeu international. Et il y a eu une rupture avec la Révolution française, puisque là, les soldats de l'an 2 allaient au combat, non pas au nom de la puissance de l'État français ou d'une monarchie qui était sur le point d'être abolie, mais au nom de la libération des peuples. Alors ça, c'est une autre idée qui a fait son entrée, qui n'a jamais totalement quitté la scène et qu'on retrouve de temps en temps sous la forme de ces problématiques de la guerre juste et de cette conception, je dirais, de criminalisation de l'ennemi. C'est-à-dire où l'ennemi n'est plus le rival, mais où l'ennemi est le fautif, hein, celui qui, le délinquant. Bon.
Et aujourd'hui, pour vous, on est dans quel moment ?
Eh ben, en ce moment, on est toujours dans un moment westphalien, simplement, dans certaines circonstances, soit sous la pression des sociétés, soit par jeu politique, parce que l'emblème est trop beau pour ne pas être employé, on va brandir l'idée de guerre juste. Après tout, l'idée de guerre juste, on la retrouve dans les multiples interventions militaires françaises, on la retrouve même dans le discours de Monsieur Bush et des néoconservateurs. Donc, vous voyez, il y a
et
là...
Et aux Nations Unies.
Et aux Nations Unies. Donc, voilà, il y a là un tout assez complexe, mais qui nous ramène toujours vers la même conclusion, c'est-à-dire que le jeu international en tant que tel est un jeu anormatif. À tel point même que, initialement, l'idée même de droit international était insupportable à ces gens-là. C'est-à-dire que les souverains sont souverains, donc ils n'ont à se soumettre à aucune loi commune. Alors, le printemps arabe, c'est très intéressant, parce que le printemps arabe appartient à ces catégories de sociétés qui s'expriment. Et c'est quel a été le cri de guerre du printemps arabe ? C'était pas la démocratie. Le printemps arabe, c'était karama, c'est-à-dire dignité. D'ailleurs, nous revendiquons la dignité, ce qui est la quintessence même des sociétés qui se révoltent. Et c'est cette histoire-là qui continue, n'est-ce pas ? Maintenant, le problème est celui, et je rejoins aussi ce que vous disiez, du transformateur, c'est-à-dire comment transformer une revendication de dignité en invention d'un nouveau système politique. Et est-ce que les puissances occidentales ont à se mêler de l'invention de ce
exactement.
Nouveau système politique.
Caroline Galactaros et ensuite René
Bourbon. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, effectivement, on est en train de revenir. Pour moi, on y revient parce que depuis la fin de la guerre froide, il y avait quand même une espèce d'élan. Moi, j'appelle ça des oripeaux moralisateurs, mais enfin, il y avait cette revendication, justement, comme vous le dites, d'une diplomatie des droits de l'homme soi-disant active. Le problème, c'est que maintenant, tout se voit, tout se sait, ça ne passe plus la rampe, les résultats sont là, on les voit, on peut en parler, on les échange, c'est viral. Donc, on a un vrai problème de prise sur la réalité et finalement de lucidité à avoir face aux résultats de nos ambitions moralisatrices, à supposer qu'on en est eu. Maintenant, on est rentré pour moi dans un moment westphalien assez clair et net. Et la grande question, c'est est-ce que finalement on va revenir à des principes de concertation et de dialogue international ? Et dans ce cas-là, il faut en finir avec l'unilatéralisme. Il faut arrêter de frapper parce qu'on a décidé de frapper parce qu'on a un problème de politique intérieure. Faut se mettre ensemble et revenir à l'intangibilité des frontières, la souveraineté nationale, la non-ingérence. Et effectivement, on a un problème avec les sociétés humaines qui, elles, ont d'autres revendications, qui, elles, effectivement, des revendications souvent de dignité, souvent, voilà, se voient comme des collections d'individus et où la notion d'État elle-même est remise en cause. Alors que du point de vue, évidemment, de ses tenants et des acteurs internationaux, la notion d'État est bien vivante et celle de peuple aussi.
Et je vois bien qu'en tout cas vous ne considérez pas qu'il y a une sincérité dans la volonté affichée par certains États d'accompagner ces revendications pour plus de dignité.
Ronny Broman.
Oui, moi un petit peu dans la foulée de ce qui vient d'être dit, je voudrais rappeler que les interventions internationales au sens d'interventions militaires ont produit un certain nombre d'effets qui nous amènent à discuter ici. L'intervention soviétique, l'armée rouge en Afghanistan, que l'on exonère un petit peu trop souvent, enfin on oublie, on parle de l'interventionnisme américain ou anglo-américain, un peu français depuis la Libye, j'y reviendrai, on oublie celui de l'Union soviétique de l'époque. Tout de même, l'Afghanistan, c'est 1 million de morts, 5 millions de réfugiés, 10 millions de personnes déplacées, et au-delà de ces chiffres, un pays en ruine politique, en ruine morale, en ruine sociale, qui n'arrive toujours pas à se reconstruire. Et puis, pour ce qui nous concerne plus directement, ce sont les talibans et Al-Qaïda, qui sont la suite directe, qui sont les créatures issues des décombres provoqués par l'Union soviétique. l'attaque à peu près contemporaine du Liban par Israël provoque le surgissement du Hezbollah, cette énorme milice armée dont aussi les capacités d'action qui agit en Syrie, qui est un facteur de perturbation extrêmement important, aussi de protection d'ailleurs
de protection.
Du Liban contre Israël,
ah, bah ouais.
Parce que ce sont des enjeux qui sont souvent multifaces. Les États-Unis ne sont pas en reste avec l'attaque de l'Irak en 2003 et le soutien à Al-Qaïda en Afghanistan, plus la transformation d'Al-Qaïda en État islamique à partir de l'invasion de l'Irak. Donc voyons
ce que
ces jeux d'apprentis sorciers ont. En effet, il y a des responsabilités dispersées, mais les interventions militaires, dans leur ensemble, ont produit des monstres. Et puis je rappelle, parce qu'il faut tout de même le dire, que la dernière grande aventure militaro-démocratique française en Libye, qui a trouvé dans la presse française, y compris sur cette antenne, un écho enthousiaste, où il était pratiquement impossible de s'exprimer, d'émettre une critique, sans apparaître comme un suppôt de...
Sculpture qui m'a accueilli pour dire le contraire, je crois que c'était chez vous.
Un suppôt de Kadhafi,
c'est
Non, j'ai eu le privilège aussi de pouvoir exprimer ma voix, tout de même, mais dans l'ensemble, on avait l'impression les éditorialistes du matin étaient habillés en kaki, qu'ils défilaient au chant de la Marseillaise, sous la trompette, etc.
Ça va leur faire plaisir,
de Benghazi.
Et on voit ce qu'il en est aujourd'hui en Libye. Donc, par rapport au point de départ de cette conversation, à savoir l'attaque sur le village syrien par l'armée américaine, il faut garder aussi une vision un peu large, un peu d'ensemble, de ce que l'on peut attendre des interventions militaires, ou de ce que Bertrand Badie appelait l'impuissance de la force, qui est, je crois, une formule qui résume très très bien les limites de ce que l'on peut attendre de l'usage de la violence.
Alors, cela dit, toutes les interventions qui se font au nom des droits de l'homme ne sont pas des interventions militaires. Il peut y avoir des interventions qui se limitent au seul terrain diplomatique. Prenons par exemple, autre exemple, François Hollande, l'an dernier, on est au mois d'avril, donc ça fait pile un an, ils seront en visite officielle au Caire. Et alors il y a un certain nombre d'ONG qui demandent d'aller défendre la cause des droits de l'homme auprès du président égyptien, ce qu'il fait manifestement en mettant une liste d'une quinzaine de cas de plus ou moins avérés de violations des droits de l'homme.
C'est un rituel, ça.
Voilà. Alors justement, est-ce qu'on est seulement là dans le rituel, ou bien est-ce que ça peut quand même avoir dans certains cas de véritables effets et des effets bénéfique, ce genre d'intervention, Bertrand Badie?
Écoutez, depuis que j'existe, et ça fait hélas un bon moment, j'entends cette rubrique. Je me rappelle Valéry Giscard d'Estaing se rendant en 1974 à Moscou avec une liste, vous savez, les fameuses listes que l'on remet selon un protocole extrêmement réglé, voire quelquefois on reçoit au petit déjeuner pour leur donner une tasse de café quelques dissidents, lorsqu'on n'est pas dans les situations les plus aiguës.
Il y avait quelques dissidents qui ont été libérés.
Moi, quand même, ce que je vois, c'est que lorsque le président Hollande a rendu visite au maréchal Sissi, c'était surtout de vente d'armes dont il était question, et de vente d'armes qui s'inscrivent dans une politique de coopération de puissance qui est extrêmement inquiétante compte tenu de ce qu'est le Moyen-Orient. Et parlons pas de l'Arabie Saoudite, et parlons pas du Qatar, et de tout ce qui s'ensuit. Ce qu'il faut, je crois, dans cette affaire bien comprendre, c'est que, d'une part, effectivement, les droits de l'homme ont une capacité extraordinaire de conversion en rhétorique, et d'autre part, revenons quand même sur cette idée, je crois qu'il nous est commune à tous les trois, qui est que ce que les États ne peuvent pas faire, soit parce qu'ils ne le savent pas, soit parce que leur logiciel n'est pas fait pour ça, les sociétés, les acteurs sociaux d'un étatique le font. C'est-à-dire qu'un dictateur en Afrique a beaucoup plus peur du rapport d'Amnesty International qui dénonce, qui fait ce que l'on appelle maintenant dans le jargon le fact-finding, c'est-à-dire de montrer ce qui se passe véritablement dans les geôles de Monsieur Bongo ou de Monsieur Mugabe ou je ne sais qui. Et là, ils ont peur. Parce que là, la parole est libre, parce que l'ONG n'a pas une ligne diplomatique à suivre qui correspond aux contraintes qu'on décrivait.
L'ONG fait plus peur que l'État.
Mais évidemment, je me rappelle le temps où le président Clinton s'était rendu au Nigeria. Le président du Nigeria, c'était cet horrible dictateur, le général Abacha à l'époque. Il n'avait pas pu obtenir la libération d'un prisonnier. Peu de temps après, Amnesty International publiait son rapport et la pression a été telle que là, le régime nigérian a dû desserrer un peu l'étau. C'est quand même intéressant cette affaire, que ce que le président des États-Unis ne peut pas faire, une ONG peut le faire.
Alors est-ce que ça veut dire qu'au regard de ce maigre bilan, les États et les autorités, disons, officielles politiques doivent s'abstenir de convoquer cette question des droits de l'homme avant de poursuivre et d'achever d'ailleurs déjà cette discussion. Je voudrais vous faire entendre un extrait de la grande table du mois de décembre dernier, le 15 décembre dernier. Olivia Gesbert recevait Mario Betati. Mario Betati qui a disparu il y a quelques jours de cela, qui était connu pour avoir théorisé le concept d'ingérence humanitaire. Et écoutez ce qu'il disait à la fois sur le fait que certaines interventions pouvaient être totalement vaines, mais qu'il fallait quand même les formuler.
Je crois qu'il est essentiel de continuer à marteler les règles, à rappeler les règles, même si elles sont violées. Parce que une règle qui est violée, c'est toujours une règle. Et celui qui viole une règle, il fait déjà du droit. Il viole le droit, mais c'est déjà du droit.
Celui qui l'ignore,
c'est pas de la morale. Les grandes puissances peuvent s'affranchir de l'interdiction du recours à la force prévue par la Charte des Nations Unies, mais il faut vraiment qu'ils soient en position de force. C'est pas le cas en ce moment, parce que il y a une sorte de crainte révérentielle à l'égard de Vladimir Poutine qui fait que faut surtout pas le heurter. Je crois en la diplomatie, mais quand j'en connais les limites. Je crois qu'il est, de toute façon, par principe, la protestation diplomatique est toujours justifiée. Il vaut mieux le faire, même si ça marche pas, que de ne rien faire, parce qu'à ce moment-là, on fait preuve d'une certaine faiblesse, peut-être même d'une certaine culpabilité.
Qu'est-ce que vous en pensez, Rony Broman?
Mais hommage à Mario Betati et paix à ses cendres. Mais enfin, je suis intégralement en désaccord avec lui, sauf sur le fait que violer une règle, c'est aussi, d'une certaine manière, indirectement affirmer son existence. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord, et que l'existence d'un droit international ne me fait aucun doute non plus. Je ne veux pas qu'il y ait de... Bien entendu, je suis intégralement en désaccord sur sa théorie de l'ingérence. D'ailleurs, je parlais de la Libye à l'instant. J'avais eu avec Mario Betati un débat assez suivi au moment de la guerre en Libye, dont il était un supporter enthousiaste. Donc, sur ce plan-là, nous nous sommes tout à fait... Mais bon, non, il suffit pas d'essayer pour que l'entreprise soit en elle-même vertueuse. Les rites dont parlait à l'instant Bertrand Badie, à savoir arriver dans une capitale où l'on sait que l'on enferme des dissidents avec sa liste, et puis annoncer un grand coup de trompe qu'on va discuter de cela en coulisses, c'est aussi une façon, c'est parfaitement intégré dans les rituels diplomatiques de tous les côtés. Par exemple, on va en libérer quelques-uns parce que on a envie de faire un cadeau, de montrer un signe de bonne volonté, de glaner un avantage ici et là, et puis on va les réenfermer ou enfermer d'autres dans la semaine qui suit, et là de toute façon le chef d'État sera reparti et on n'en parlera plus. Donc ce rituel a quelque chose presque de choquant, j'allais dire obscène, c'est peut-être un peu trop, mais enfin disons de moralement choquant, parce qu'il n'est finalement qu'une vitrine que l'on habille et que l'on dont on change l'habillage dès lors que l'événement est passé.
Caroline Galacteros.
Oui, c'est-à-dire que je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que c'est la cible et l'opinion publique. Voilà, on veut faire croire aux gens qu'on se préoccupe de toutes ces choses-là. Ceci dit, quand on libère des otages, quand on libère des dissidents, quand il y a voilà des gestes qui sont faits par un État vis-à-vis d'un autre, c'est bien souvent pour des motifs infiniment plus prosaïques, sur des négociations beaucoup plus larges. Et finalement, ce que l'on obtient, bien sûr, concrètement, au plan des droits de l'homme, n'est en fait qu'une scorie par rapport à une négociation dont les fondements sont bien plus froids. Voilà.
La meilleure façon, et ce sera la conclusion, Bertrand Badie, d'aider les sociétés finalement à gagner du terrain sur la question des droits de l'homme, c'est justement de ne pas les aider, enfin en tout cas quand on est un État.
Non, le problème c'est que la parole d'un État n'est pas aussi légitime que la parole de la communauté internationale. Un État qui parle isolément parle le langage de sa puissance et donc de ses intérêts propres. C'est exactement notre monde, c'est exactement celui dans lequel il y aurait des gendarmes sans qu'il y ait de gendarmerie. Or, un gendarme n'est pas légitime quand il n'y a pas de gendarmerie. C'est ça le drame que nous vivons actuellement et que finalement, en prenant sur son dos le soin de justice, d'être le justicier, eh bien on démolit l'idée de justice. Et ce paradoxe-là, c'est ce qui nous ronge actuellement. D'accord. Et vous avez raison, parole aux sociétés. Parce que les sociétés sont libérées de cette suspicion de faire progresser leur propre puissance au nom de valeurs que l'on ripolline. C'est tout.
Est-ce qu'il manque un gendarme au monde ou une gendarmerie? Bah, ouais. Ça pourrait être l'objet d'une suite à cette émission qu'on aurait pu évidemment poursuivre longuement avec vous trois. Merci en tout cas d'avoir participé à cette discussion. Bertrand Badi, Ronny Broman et Caroline Galacteros. Émission que vous pouvez réécouter sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe de l'émission, Fanny Richet, Céline Leclerc, Isolde Sicard, Louise Fuseau, Antoine Tricot. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jean-Frédérix. Demain, nous allons alors changer radicalement de sujet puisque la question sera la suivante. La virilité est-elle l'avenir de l'homme ?